Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La crise du coronavirus touche évidemment Israël, où le groupe de travail dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé de resserrer le contrôle de la population. Désormais, les gens ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour acheter de la nourriture ou des médicaments et doivent rester à distance de marche de leur domicile tout en portant une pièce d'identité. Il est également envisagé de confiner les personnes âgées de plus de 65 ans à leur domicile. Les écoles pourraient ne pas revenir à la normale après les vacances de la Pâque. Dans ce contexte, et pour ne pas oublier que nous sortirons bientôt de cette grave crise sanitaire, Orient Hebdo vous propose la rediffusion d'une émission sur Jérusalem. Une histoire, des promenades, une anthologie et un dictionnaire, tout cela dans un livre écrit par Tila Rudel, directrice adjointe de l'Institut français d'Israël et attachée culturelle. Bonjour Tila Rudel.
Bonjour Éric Bataillon.
Écrivaine, vous êtes attachée culturelle, directrice adjointe de l'Institut français d'Israël à Tel Aviv et vous êtes en ligne avec nous depuis Jérusalem. Vous publiez dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, Jérusalem, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire. C'est une somme, on peut l'appeler comme ça, c'est une somme d'un peu plus de 1200 pages. Selon vous, la ville le mérite-t-elle ?
Ah oui, et je pense qu'elle en mérite encore plus, plusieurs volumes même. Parce que si j'avais été au bout de ce que je voulais faire pour l'anthologie, il y en aurait eu deux fois plus.
Dans sa préface, l'écrivain et ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor écrit ceci : il faut être très fou ou très croyant, ou les deux à la fois, pour habiter Jérusalem et surtout ne jamais vouloir en partir. C'est un avis que vous partagez ?
Oui et non. Fou, pourquoi pas, il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler du syndrome de Jérusalem, il y a pas mal de fous à Jérusalem et il y a beaucoup de croyants. Mais je pense qu'on peut être non-croyant et vivre très heureux à Jérusalem et ne pas avoir ce petit grain de folie qui permet de survivre à certaines situations. Mais je pense qu'il faut être fou. Et croyant, et on peut être pas fou et pas croyant et néanmoins apprécier cette ville.
Il n'y a pas que des fous de Dieu.
Non, heureusement.
La première partie de cet ouvrage est consacrée à l'histoire de la ville. Or, dès les premiers mots, on nous prévient, Jérusalem est une ville sans histoire. N'est-ce pas paradoxal pour une cité dans laquelle le patrimoine est omniprésent ?
Je pense que c'était une phrase un peu rhétorique et qui justement ouvrait le débat. C'est une ville sans histoire, mais c'est une ville qui a des pans d'histoire successifs les uns au-dessus des autres. Ils sont accumulés au gré des siècles et des millénaires. Et finalement, peut-être que ce trop d'histoire devient pas d'histoire.
Oui, l'auteur dit « l'histoire s'est absentée ou elle est cachée sous l'amoncellement des mémoires ».
On peut ne pas être d'accord, hein. Ça c'est l'avis de Vincent Lemire, et surtout de Vincent Lemire, je pense, parce que c'est lui qui a coordonné la partie histoire. Mais c'est une manière pour lui d'ouvrir le champ, peut-être à d'autres disciplines pour appréhender Jérusalem, que celle de l'historiographie pure.
Alors il faut quand même revenir aux origines. Jérusalem ne serait qu'une bourgade sans véritable intérêt stratégique, qui est née 4000 ans avant notre ère. Qu'est-ce qui a incité les hommes à s'y installer précisément ?
Je pense qu'il y a une bagarre d'archéologues justement sur le fait que ce soit ou pas une bourgade. Je ne suis pas historienne et je ne suis pas à la place des Jébusites qui s'y sont installés. Mais je pense que comme Jérusalem était initialement la capitale du royaume juif et qu'ensuite est venu le christianisme, puis l'islam, chacun a voulu revendiquer sa part de sainteté dans cette ville et au fil des siècles, il y a eu, au bout de toutes ces guerres, un conflit qui s'est installé de façon aussi durable que les pierres qui composent cette ville.
Alors parlons un petit peu de l'histoire de Jérusalem, puisque c'est la première partie de cet ouvrage. Jérusalem, donc fondée il y a à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ, elle prospère en tant que cité sociale, en tant que cité commerçante. Donc c'est une ville au départ, petite puis grande. Qu'est-ce qui lui donne au fil du temps son caractère religieux ? Qu'est-ce qui lui donne son caractère de ville sainte ?
C'est tout d'abord le temple. Le temple de Jérusalem, qui est le lieu de sainteté de la religion juive par définition, hein, ça vient de la Bible. Puis ensuite, s'agrégeront les lieux de culte des autres religions, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun revendique cette cité comme la sienne, que ce soit le christianisme ou plus tard l'islam. Mais je ne voudrais pas non plus empiéter sur le savoir des quatre historiens, Vincent Lemire, Yann Potin, Julien Loiseau et Catel Berthelot, qui ont rédigé cette partie historique. Et je ne voudrais pas commettre d'erreur sur ce que je vais dire, mais ce sont 550 pages qui essayent d'expliquer comment on en est arrivé là aujourd'hui.
Et justement, aujourd'hui, Jérusalem est une ville où vivent, où travaillent, où se cultivent, où s'amusent aussi plus de 800 000 habitants. Peut-on dire que cette ville vivante et vivace se cache finalement sous les lieux saints ?
Non, je ne crois pas qu'elle se cache derrière les lieux saints, parce que il y a aussi une vie laïque, séculaire. C'est une ville du 21e siècle et on y vit comme au XXIe siècle, et je dirais que on peut vivre à Jérusalem comme à Tel Aviv, mais il y a ce plus qui est les pierres, les temples, les murs, les églises et les mosquées qui rajoutent à la vie à Jérusalem cette dimension religieuse qui n'existe nulle part ailleurs, je pense, dans le monde.
Oui, c'est ce qui frappe lorsqu'on est à Jérusalem par rapport à Tel Aviv, d'où l'on vient souvent, puisque lorsqu'on atterrit en Israël, on atterrit souvent à côté de Tel Aviv. La différence, c'est cette ville qui présente, notamment dans son cœur historique, une particularité et dégage quelque chose, une émotion extrêmement forte. C'est une grande différence. C'est une ville qui vit, certes, mais qui a aussi, on le sent dans son cœur, quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement ancien.
C'est vrai. Et puis, Jérusalem a une lumière très particulière. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Israël. Jérusalem a une lumière. D'abord, elle est en hauteur. Elle est à 700 et quelques mètres d'altitude. Il y a une lumière spéciale. Il y a la pierre, est assez unique aussi, la pierre de Jérusalem. Et la réverbération du soleil sur cette pierre lui donne presque un caractère sacré, même si on ne voudrait pas lui attribuer ce caractère. Donc quand on arrive à Jérusalem, on a un poids sur les épaules qui fait qu'on se sent différent. En tous les cas, quand moi je viens de Tel Aviv à Jérusalem, je ne suis pas la même personne dans les deux villes. Et je ne dois pas être la seule dans ce cas.
Oui, on a vraiment l'impression que cette ville n'a pas été installée finalement au hasard. Elle surplombe, il y a aussi une source qui coulait à proximité. C'est peut-être ça qui a incité les premiers habitants de la région à s'installer dans cet endroit précisément.
Sans doute, et il faut se référer au livre de Vincent Lemire, qui est l'un des quatre historiens et qui a écrit tout un ouvrage de plus de 600 pages sur Jérusalem et l'eau. Toute la problématique hydraulique de l'eau à Jérusalem joue un rôle très très important dans son histoire.
Baruch ata Adonai.
Baruch ata Adonai.
Baruch abba Yerushalayim.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en compagnie de l'écrivaine et attachée culturelle Tila Rudel, qui a dirigé cet ouvrage collectif sur Jérusalem, publié aux éditions Robert Laffont. Un livre qui comporte également trois autres parties. Alors, la première de ces autres parties s'intitule « Promenade ». Tila Rudel, c'est une façon finalement de découvrir la ville autrement que vous avez cherché à faire dans cette partie d'ouvrage.
Absolument. Autant la partie historique, elle est donc chronologique de l'Antiquité à nos jours, autant pour les promenades, j'ai donné une carte blanche aux personnes à qui j'ai commandé une promenade et j'ai essayé de créer une sorte de transversalité dans ces promenades dans Jérusalem. On peut prendre par exemple la promenade de Samuel Blumenfeld sur le cinéma. Je lui ai demandé d'écrire sur Jérusalem et le cinéma, comment Jérusalem apparaît dans les films, comment des films se sont faits à Jérusalem. Et il l'a fait de façon vraiment passionnante. Ensuite, Olivier Tourny, qui est un musicologue et qui a autrefois dirigé le CRFJ, le Centre de Recherche Français à Jérusalem, lui est spécialiste de la musique éthiopienne. Et à Jérusalem, il y a à la fois des chrétiens et des juifs éthiopiens. Il a étudié la musicologie chez les uns et chez les autres. Donc sa promenade, c'est une promenade musicale à travers ce que peuvent faire les moines éthiopiens, par exemple, au-dessus du Saint-Sépulcre, avec leur musique qui est très particulière, ou les falachas. Il y a aussi une promenade de Nicolas Veil, qui a décidé qu'il connaissait bien la Jérusalem juive, mais il s'est aventuré sur un terrain qu'il ne connaissait pas, c'était la Jérusalem chrétienne. Pour continuer aussi du côté chrétien, le père Jean-Michel de Tarragon, qui dirige l'école biblique, a fait une promenade sur les traces de Jésus dans la vieille ville. Et il m'a dit un jour quelque chose qui n'est pas forcément politiquement correct. Il me dit, mais le Saint-Sépulcre, bon, il s'est construit au fil des siècles, des croyances, païennes ou pas d'ailleurs, de toutes les églises chrétiennes d'Orient ou d'Occident, mais on n'est vraiment pas sûr que Jésus soit passé par là. En revanche, les pierres qui sont dans le jardin archéologique en dessous du mur des Lamentations, là, je sais que Jésus a foulé ces pierres, puisque avant de devenir chrétien, il était juif et il allait au temple. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément entendu souvent.
Parmi d'autres pèlerinages, en quelque sorte, de chemins de pèlerinage que nous conseillent certains de vos intervenants, il y a l'ancien président des Juifs de France, Théo Klein. Alors lui, il se promène dans Jérusalem avec un ami palestinien.
Absolument, c'est une très très belle promenade. Et ce sont des promenades d'ailleurs qu'il faisait réellement avec son ami Ziad Kawas. J'en ai fait quelques-unes avec tous les deux. Il avait cet ami, il l'a toujours, puisque Théo Klein est toujours vivant et Ziad Kawas aussi. Mais il ne se revoit plus tellement parce que Théo a plus de 95 ans, je crois, il ne vient plus à Jérusalem. Et ils essayaient tous les deux, autour d'un café dans la boutique de Ziad ou à travers les ruelles du Chouk dans la vieille ville, d'imaginer une Jérusalem en paix et les deux peuples en paix. Et il faut reconnaître à Théo qu'il a, pendant toutes ces années, en tant que président du CRIF, même en tant qu'avocat et en tant qu'Israélien et Français, il a toujours été du côté de la voie de la paix. Et c'était très très important pour moi de lui commander cette promenade et de la publier.
Parmi les autres promenades proposées, alors il y a celle des consulats, peut-être un jour dira-t-on celle des ambassades, mais en tout cas pour le moment c'est la balade des consulats. Et puis aussi on découvre par exemple qu'il y a de l'allemand à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers de Jérusalem où l'on parle allemand, où l'on a parlé allemand, où en tout cas il y a la trace de l'Allemagne. Comment est-ce possible ?
Absolument, c'est la promenade de Dominique Bourrel, dont d'ailleurs il a fait une thèse, pas de cette promenade, mais en tous les cas du sujet. Lui, il a étudié la colonie juive allemande à Jérusalem, qui était très très importante. En fait, toute l'intelligentsia juive à Jérusalem, au début du XXe siècle, était allemande. Il s'agit de Martin Buber, qui en 1925 a créé l'université hébraïque de Jérusalem. Il s'agit plus tard de Gershom Scholem, qui a été un très très grand philosophe et qui a dirigé les études juives et mystiques à l'université hébraïque. Et tous ces juifs allemands qui sont arrivés au fil des décennies à Jérusalem ont habité par esprit, j'imagine, de communautarisme, ils aimaient être ensemble, ont habité ce quartier de Rehavia et ont eu un rôle très très important, à la fois intellectuellement, littérairement et aussi politiquement, dans les débuts de l'État d'Israël, comme le ministre de l'Intérieur Yosef Burg. Les juifs allemands avaient un rôle très très important dans la création de l'État d'Israël en 1948 et avant dans l'instauration d'une faculté, enfin d'une université à Jérusalem dans les années 20.
Oui, c'est une des découvertes de ces promenades. Tila Rudel, autre partie du livre que vous avez établie, l'anthologie. De quoi s'agit-il ? Des textes anciens et peut-être plus récents ?
Absolument. Il fallait choisir une direction ou une thématique pour l'anthologie littéraire. C'est un exercice qu'il y a dans toute cette collection. Et je me suis dit que le plus simple et le moins polémique serait de commencer par la première fois où Jérusalem est évoquée, c'est-à-dire dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques, « Si je t'oublie Jérusalem, que ma langue soit coupée ». Donc j'ai commencé par ce verset de la Bible. Et puis j'ai cherché des textes sur Jérusalem, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors, j'ai pris des extraits de la guerre des Juifs de Flavius Josèphe, un extrait par exemple du Pèlerin de Bordeaux, qui est un des premiers textes au IIIe siècle, qui relate un voyage de ce pèlerin de Bordeaux à Jérusalem. C'est en français ancien, donc c'est... J'en ai pas pris trop non plus. J'ai continué avec les écrivains du Moyen-Âge, les écrivains du XVIIe, du XVIIIe siècle. Il y a par exemple un très beau poème de Herman Melville qui s'appelle Clarel sur Jérusalem. Il y a évidemment tous les grands écrivains palestiniens, écrivains et poètes comme Mahmoud Darwish ou comme Sari Nusseibeh ou comme l'écrivaine Liana Badr. Je pensais que c'était intéressant de voir comment les hommes politiques parlaient de Jérusalem. Alors, il y a un extrait du livre de Boutrous-Ghali, Les chemins de Jérusalem. Il y a un extrait du roi Hussein qui parle de sa vie. Dans son autobiographie, il a un extrait sur Jérusalem au moment de la guerre des six jours. Je l'ai mis en face de Moshe Dayan. Il y a Joseph Kessel, par exemple. Il y a le poète écrivain Anton Chamas. Il y a Claude Vigée. Donc, c'est très, très éclectique.
Hilaire Udel, pour conclure, parlons du dictionnaire, c'est la dernière partie de l'ouvrage, peut-être la plus instructive. En tout cas, elle propose des mots-clés de A comme abbasside jusqu'à Z comme zoo biblique. C'est l'une des attractions de la ville pour ceux qui ne s'intéressent ni à la politique, ni d'ailleurs aux religieux. Pourquoi avoir créé ce dictionnaire à la fin de cet ouvrage, précisément ?
Ça fait partie de la collection. Toutes les monographies de ville dans bouquins sont partagées en quatre parties comme la mienne, hein, histoire, promenade, anthologie, dictionnaire. Donc, c'est l'exercice, il fallait y répondre. Et je pense que ça permet, dans ce genre d'ouvrage, d'avoir à nouveau une autre lecture de la ville. Ce n'est plus l'histoire, ce n'est plus les promenades, ce n'est plus l'anthologie littéraire, mais c'est un dictionnaire. Donc, c'est plus sec, entre guillemets, plus instructif. Mais c'est aussi plus imaginatif et plus créatif parce que, même si on pourrait dire que les choix sont très scolaires, entre guillemets, c'est quand même, on peut se promener avec ce dictionnaire.
Se promener et par exemple avoir des surprises. On y croise les noms de Mark Twain, d'Henri Corbin ou encore de la famille Al-Alami. Alors là, c'est moins une surprise. Ou encore de Zev Jabotinsky. C'est un dictionnaire finalement très éclectique.
Oui, parce que j'ai voulu à la fois, d'une part, mettre dans le dictionnaire certains écrivains dont j'ai pas pu mettre des extraits dans l'anthologie. Donc, c'est pour moi, c'était important d'en parler parce qu'ils avaient un lien avec Jérusalem. C'était aussi l'occasion d'évoquer des hommes politiques qui ont eu un rôle à jouer dans la vie d'Israël ou de la Palestine ou de la période du mandat. C'était aussi l'occasion d'évoquer des bâtiments parce que l'architecture à Jérusalem, elle est très, très importante. L'architecture et l'urbanisme. Un des moyens qu'ont eu les puissances étrangères au XIXe siècle pour s'établir à Jérusalem, c'était justement de construire des hôpitaux, des consulats, des églises, des temples, des synagogues. Donc l'architecture est importante. C'est pour ça qu'on évoque des bâtiments, des quartiers, des rues, des personnes. Heureusement d'ailleurs qu'il y a un zoo parce que j'ai calé sur la lettre Z, c'était le seul mot que j'ai trouvé pour terminer cet abécédaire. C'est aussi un moyen de se promener.
Pour conclure, Hilaire Udel, rappelez-nous comment s'appellent les habitants de Jérusalem ?
Des Yérosolomitains.
Avec un nom pareil, n'est-il pas logique que cette ville soit aussi particulière ?
Sans doute, et je voudrais citer deux phrases que j'ai mises en exergue et qui pourraient être une belle conclusion. La première vient du Talmud. 10 mesures de beauté sont descendues sur la terre, Jérusalem en a pris 9, et le reste du monde s'est partagé la 10e. L'autre phrase que j'aimerais citer, en fait j'en ai encore deux. La deuxième phrase, c'est une poétesse qui s'appelle Zelda, et qui a vécu en Israël, à Jérusalem, dans les années de 30 à 50. Il faut toute une vie pour venir à bout de Jérusalem. Et je laisserai le dernier mot au poète Mahmoud Darwish. À Jérusalem, je veux dire à l'intérieur des vieux remparts, je marche d'un temps vers un autre sans un souvenir qui m'oriente. Les prophètes là-bas se partagent l'histoire du sacré. Ils montent aux cieux et reviennent moins abattus et moins tristes, car l'amour et la paix sont saints et ils reviendront à la ville.
Magnifique.
Merci Éric Bataillon.
Merci Hilaire Udel. À lire donc cet ouvrage sur Jérusalem, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire, publié dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite, un nouveau journal.